Et bonsoir, bienvenue dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDWA 107.5. Aujourd'hui, c'est l'épisode 39 de notre émission. Et là, on est réunis tous les quatre dans le studio avec Pierrick, Axel, Rémi et moi-même, Fred.
Et bonjour.
Salut à tous.
Bonsoir.
Alors, on est content de vous retrouver après un été, on va dire, de pause, en tout cas radiophonique, pour nous. Où on vous a diffusé un petit peu en boucle les conférences qui avaient été données à Marignac fin juillet là, pour Marignac Fête des Étoiles. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure dans les actus et on est de retour, voilà.
Ouais.
Donc pour cet épisode 39, le sommaire, ce sera tout d'abord la rubrique Le Ciel ce soir, hein, qu'on continue à faire à chaque émission, parce que c'est quand même notre base, l'observation du ciel. Ensuite, on fera un petit point d'actu, on fera un petit retour justement sur cette soirée de Marignac, et puis on vous donnera quelques nouvelles du James Webb Télescope. Et le thème du jour, ça va être une discussion sur une sorte de géographie étendue du système solaire, pour repartir un peu sur une vision un peu globale de ce qui nous entoure. Voilà, pour ce sommaire. Alors, on va commencer avec le ciel ce soir. Et ce soir, c'est Axel qui va nous présenter cette rubrique.
Oui, bonjour à tous. Alors, le ciel de ce mois d'octobre même, qui va commencer. Eh bien, je vais commencer par les planètes. À l'heure où on enregistre, là, fin septembre, on est à deux jours de l'opposition de Jupiter. Qu'est-ce que c'est l'opposition de Jupiter? Rien de, pas de panique. Ça va bien se passer. C'est le moment où Jupiter est le plus près de la Terre dans l'année donnée. Le moment où l'alignement est parfait entre Soleil, Terre et Jupiter. En astrologie, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en astronomie, eh bien, c'est le moment où la taille de Jupiter dans le ciel est la plus grande. Évidemment, à l'œil nu, elle apparaît comme une étoile. C'est la plus brillante en ce moment. Et elle va le rester encore quelques semaines. Mais elle est aussi... Elle est très brillante parce qu'elle a une petite place dans le ciel. On ne s'en rend pas bien compte à l'œil nu, évidemment. Mais avec un télescope et en faisant des observations tout l'été, eh bien on la voit grossir petit à petit jusqu'en ce jour du 22 septembre. Et puis ensuite, elle va s'éloigner jusqu'à l'année prochaine. Donc Jupiter, qui se lève en ce moment à la tombée de la nuit, environ 20h30, on a ce phare dans le ciel, pour citer notre ami de Marignac. Le phare... du moment, c'est Jupiter qui brille de mille feux. Et puis, sur sa droite, il y a une autre étoile bien brillante qui n'est pas une étoile, c'est Saturne, qui est là dès le coucher du Soleil.
Dans le Capricorne, en ce moment.
Dans le Capricorne, effectivement. Et Jupiter est toujours dans le Verseau, ou par là, Verseau ou Poisson, pas très loin. Mais ma préférée du moment, alors il faut se coucher un peu plus tard, c'est Mars qui commence à prendre une bonne couleur, aussi une bonne luminosité, qui se rapproche également. L'opposition avec Mars sera plus tard, je crois que c'est au mois de fin novembre, décembre, où elle sera la plus grosse dans le ciel, mais elle brille déjà beaucoup. Et ce qui est marrant cette année, c'est qu'elle est à côté d'Aldébaran, qui est une étoile qui apparaît rouge aussi. Et donc on a ce contraste entre Mars bien rouge, Aldébaran à côté dans le taureau, rougeoyante aussi. Mais... pour les voir, en ce moment, il faut veiller jusqu'à minuit et demi, peut-être même une heure, le temps qu'elle monte un peu dans le ciel selon le relief local. Voilà pour les planètes. Vénus et Mercure, je n'en parlerai pas plus, puisqu'elles sont très proches du Soleil en ce moment et pas visibles. Peut-être Vénus à peine avant le lever du Soleil, mais je ne suis même pas sûr. Je pense qu'elles sont noyées dans la lumière du Soleil, trop proches de notre point de vue. Et puis, alors, pour parler d'une constellation du moment, c'est pas exactement la plus haute dans le ciel, mais elle prend quand même beaucoup de place, puisque c'est la septième plus grande constellation de l'hémisphère nord, c'est Pégase, qui se lève, qui est déjà levée au moment du coucher du soleil et qui prend toute sa place, toute sa splendeur un petit peu plus tard, aux alentours de 11h30, minuit. Pégase, on peut la reconnaître, alors je crois pas avoir déjà vu le cheval ailé, puisque c'est de lui qu'il s'agit évidemment. J'ai lu sur Wikipédia justement qu'ils expliquent que ça c'est l'aile, ça c'est le museau. Alors maintenant que je sais ça, peut-être que j'y jetterai un œil nouveau. Mais sinon, la meilleure façon de le reconnaître, c'est que c'est un grand carré, il y a un astérisme dedans, c'est le carré de Pégase. Un beau carré bien régulier dans le ciel, vers Andromède, vers à droite de Cassiopée, sous le W de Cassiopée en quelque sorte. Un grand carré vide d'étoiles, on a 4 étoiles et presque rien au milieu. 2 petites étoiles si on y prête attention.
C'est sûr que ce carré de Pégase, il est... Moi, je trouve que quand on apprend les constellations, il n'est pas forcément évident au début à bien se mettre dans l'œil. Mm-hmm. Mais une fois qu'on l'a, il est ultra net.
Ouais, il n'y a pas d'équivalent de carré vide comme ça.
On peut dire, bon, je prends 4 étoiles, ça fait vaguement un carré. Oui. Non, mais une fois qu'on l'a dans l'œil, on comprend vraiment l'expression, le carré de Pégase. Oui. C'est très, très net. Quoi.
Ouais, surtout au printemps, quand il se lève à l'est, là, qu'on voit apparaître le carré. Oui. C'est flagrant. Ouais.
Mais là... Comme je disais, on peut le trouver sous le W de Cassiopée, mais sinon, pour faire encore plus simple, il est juste au-dessus de Jupiter en ce moment. Donc, si vous repérez l'étoile la plus brillante de la nuit, c'est Jupiter, juste au-dessus, c'est Pégase. Et alors, Pégase n'est pas très riche en amas d'étoiles, en objets messiers, je voulais dire. Il n'y a qu'un seul objet messier dans Pégase, il est à l'extrémité, du côté de Hénif, et c'est M15, un amas globulaire. Qui est assez joli, qui a une bonne taille, et que même avec des petits diamètres d'instruments, on peut commencer à apprécier. Que dire de plus sur Pégase ? Et oui, il y a quelque chose d'assez important dans Pégase, c'est dans cette constellation qu'en 1995, l'humanité, par le biais de deux scientifiques suisses, ont découvert la première exoplanète. La première planète qui tourne autour d'un autre soleil, d'une autre étoile que notre soleil. C'était sur l'étoile 51 de Pégase.
Pégasus, ouais.
Exactement. Je ne saurais pas trop la situer d'ailleurs dans Pégase, mais c'est dans cette constellation voilà, qu'on a découvert pour la première fois une planète en dehors des 8 orbitant notre Soleil.
Et c'était en 94, il me semble.
94, peut-être, je me trompe d'une année.
Il me semble.
1090,
ah, oui. On va dire. Ah oui, ça.
Ouais. Et c'était cette exoplanète. Puisque c'est comme ça qu'on les appelle, les planètes extrasolaires ou exoplanètes. Et bien c'est une grosse Jupiter, enfin une petite Jupiter, elle fait à peu près la moitié de Jupiter, mais c'est une géante gazeuse tout de même, mais qui orbite très très près de son Soleil. Et c'est là qu'on a découvert que des planètes telles que Jupiter pouvaient orbiter très près. Jusqu'alors, on pensait, sur le modèle qu'on peut observer autour de nous, qu'il y avait des planètes solides, on va y revenir après quand on parlera du système solaire, mais les planètes solides proches du Soleil, et en s'éloignant, on trouve plus que des géantes gazeuses. Et là, c'est une géante gazeuse très très proche, elle tourne autour de son Soleil en un an, en quelque sorte, de cette planète, c'est 4 jours pour nous. Donc, elle tourne, elle est vraiment très proche de son étoile. Je crois qu'elle est à moins d'une UA, elle est plus près de la Terre, plus près de son Soleil que n'est la Terre.
D'ailleurs, de là, c'est là qu'ont commencé à émerger les modèles un peu dont on a déjà qu'on a pu évoquer dans certaines émissions, mais de formation des systèmes planétaires, oui. Avec des migrations,
oui, avec des mouvements.
L'idée que des planètes type Jupiter ou même Saturne, enfin des grosses géantes gazeuses, puissent être formées à la base plus près du Soleil et ensuite repartir plus loin, créant d'ailleurs tout un tas de perturbations sur leur sillage, parce que quand même c'est des masses gravitationnelles assez importantes, quoi. Donc il y a aussi toutes ces théories-là qui ont émergé de cette observation. Quoi.
Tout à fait.
Je termine juste que c'est... en fait, on s'est rendu compte par la suite que c'est assez courant.
Oui,
On observe beaucoup deux grosses géantes gazeuses qui orbitent près de leur étoile. Ouais. Chose qu'on n'aurait pas soupçonné en ne voyant que notre système planétaire, où ce n'est pas le cas. Quoi.
C'est ça, oui. Voilà, c'est encore une fois, on avait un modèle... devant nous, donc on se servait de ça et les observations viennent remettre en cause les modèles et on est obligé de réfléchir et de répondre à de nouvelles questions. Pour revenir un peu... Non, d'abord finissons la parenthèse sur les exoplanètes. Depuis cette première qui a été découverte dans Pégase, il y en a eu, je crois qu'aujourd'hui on est à 5000 exoplanètes confirmées autour de 3000 étoiles, puisqu'il y a des étoiles avec plusieurs planètes, comme chez nous d'ailleurs. Et on en a encore 10 000 en stock à confirmer. Quoi. Voilà, c'est même pas 30 ans, c'est un domaine complet de l'astronomie qui s'est créé et qui se développe, avec des moyens de plus en plus poussés. Voilà, donc on estime maintenant qu'il y a dans les galaxies plus de planètes que d'étoiles. Donc revenons un peu aux objets du ciel profond Pégase, j'ai parlé de M15, la main globulaire, le seul objet Messier. Mais il y a aussi toute une ribambelle d'objets NGC qui sont souvent plus petits, plus faibles, plus durs à choper. Donc là, ça s'adresse à ceux qui ont un instrument un peu plus conséquent. Il y a notamment la galaxie NGC 7331, qui est une très belle galaxie, vue un petit peu le même perspective qu'Andromède, vue de trois quarts, un peu de dessus, et qui sert à trouver le quintet de Stephen. Et c'est des choses sur lesquelles on va revenir après en parlant du James Webb et en parlant de nos observations de cet été, puisqu'on a pu observer tout ça avec Rémi. Voilà, et puis, que dire de plus ? En parlant d'observation personnelle, dans Pégase, il y a une petite galaxie, NGC 7814, qui, l'année dernière, dans laquelle on a observé une supernova, une étoile très massive, plus de 8 fois la taille du Soleil, qui finit son cycle en explosant. Et à ce moment-là, l'étoile génère plus de lumière que les milliards d'étoiles qui composent la galaxie. Et donc, l'année dernière, l'été dernier, je crois que c'était au mois de juillet, j'avais observé cette galaxie dans le carré de Pégase, avec comme une étoile vue devant, sauf que non, quand tu le sais, bah, c'est une étoile dedans qui a explosé, et qui brille plus que le cœur de la galaxie. C'est assez chouette. Des événements qui arrivent assez souvent, qui sont d'ailleurs souvent repérés par des astronomes amateurs, du simple fait qu'ils sont plus nombreux que...
Et qui passent beaucoup plus de temps que les astronomes professionnels à observer le ciel, en fait, aussi.
Oui, et puis qu'eux, ils vont s'arrêter sur un objet pendant des semaines et travailler dessus, alors que... Et puis, ils sont beaucoup moins nombreux que les astronomes amateurs. Nous, on est là avec des instruments partout, on regarde dans tous les sens.
Et puis, en comparant des images, en disant, voilà, cette étoile...
Oui, elle y était pas.
Elle n'y était pas. Ouais.
Voilà, et puis, bon, j'ai pas trop parlé de mythologie autour de Pégase, parce que... On le connaît un peu, je pense que rien que le nom évoque ce cheval blanc ailé qui a servi à plusieurs dieux. Je crois que c'est un fils de Poséidon. Il est dans plein d'histoires. Il allait sauver des gens, il transportait la foudre de Zeus. Il revient souvent, ce Pégase, dans la culture populaire aussi aujourd'hui. Voilà.
Et en ce moment, le soir, on voit aussi une belle voie lactée, une belle arche, quoi,
ouais,
au zénith, là,
ouais.
Partant de percer. À l'est.
Bah ouais, début de nuit, la galaxie.
Ouais, elle est tout de suite là, quoi. Elle sort direct et c'est beau.
Ouais, super impressionnante.
Ouais. Bien au-dessus, ouais. C'est vrai.
Elle nous recouvre.
Voilà, donc comme d'habitude, observer le ciel à l'œil nu, aux jumelles, au télescope.
C'est mieux observer le ciel. Bah, merci, Axel. On va continuer cette émission avec un petit point d'actualité. Vous parler un peu de ce qu'on a retenu, nous, en fait, de l'actualité récente de l'astronomie et de l'astrophysique. On voulait vous parler du James Webb et des images qu'il a sorties, mais d'abord, on voulait faire un petit retour, en fait, sur cette soirée de Marignac qu'on a faite là, c'était le 23 juillet, voilà. Donc à Marignac, donc ça a été l'occasion de rencontrer un certain nombre d'auditeurs et d'auditrices de l'émission.
C'est un plaisir.
Donc ça c'est chouette parce que c'est vrai que autrement on n'a pas vraiment l'occasion de se croiser. On va pas forcément trop épiloguer, mais nous on a vraiment aimé en fait organiser et vivre cet événement avec vous, avec tous les gens qui étaient là. Et ça nous a donné bien envie de refaire la même l'année prochaine. Donc, on vous donne rendez-vous pour Marignac Fête les Étoiles en 2023. En tout cas, nous, on sera là. Quoi. Donc, voilà.
On vous annoncera la date dès qu'elle est fixée.
Ouais. Mais ce sera. Bon, on a le temps. Quoi. On a le temps. C'est aussi un peu la seule soirée astro qu'on a vraiment animée ensemble cet été. On en avait une deuxième de prévue, mais malheureusement, le temps ne nous a pas permis de la faire. Donc voilà, pour nous, c'était un chouette événement. On va en profiter pour remercier encore Bernard Cellier, hein, qui est le fondateur et le créateur de cet événement à la base. Et
puis tous ceux qui ont participé,
tous les bénévoles
à l'événement.
Ouais.
Ouais. Bénévoles, astronomes, à la buvette, à la restauration, les animations dans l'après-midi, Boris, Jacques, et les conférenciers de qualité. Enfin, je m'exclus en disant ça, je ne veux pas paraître prétentieux. Non, mais les deux, Ulysse et François.
Ouais, c'était riche et varié, c'était un bel événement.
Ah, il y a une belle énergie.
Ouais.
Une énergie commune.
Ouais, puis les belles photos de Rémi.
Les photos de Rémi, ouais.
Ouais, c'est chouette.
Belle vous pouvez toujours aussi. Retrouver ouais. sur le podcast, mais là, vous aviez la possibilité de les voir en tirage papier. Le visuel assisté aussi. Mmh. C'était bon.
Le gros Dobson de JB.
Ouais.
Ouais, c'était.
Bon bref, moment. Voilà. C'était un petit mot pour vous dire merci aussi d'être venu et d'avoir partagé ça avec nous.
Ouais.
Voilà.
Très bien.
Donc, on va passer au James Webb Télescope. Alors, ce n'est pas une actualité extrêmement récente. Elle date de cet été, mais depuis, il n'y a pas eu d'émission nouvelle. Donc, on en parle maintenant. Cet été, donc le nouveau télescope spatial, le James Webb, qui a été mis en orbite récemment, a sorti ses premières images. Donc, elles sont disponibles sur Internet, sur le site de la NASA, où ça a été relayé dans pas mal d'endroits. Dans la presse. Et il y avait, si ma mémoire, 4-5 images.
Ouais, 4, je crois. Ouais.
5, peut-être. Ouais. Et c'était quand même super impressionnant. Ouais. Moi, ça m'a. Ce que j'ai trouvé hallucinant, c'est les détails, en fait. Mmh. La possibilité de zoomer sur ces images et de voir que même en zoomant, on était encore. Enfin, je pense que mon écran, il ne rend pas la résolution de l'image, en fait. C'était vraiment là, sur de. Je sais, c'était quoi la nébuleuse, là
le Tarantule. Non, les premières, c'était le.
Chariot.
C'était l'hélice, ou. Pas exactement hélice, mais une nébuleuse planétaire.
Non,
il y avait une nébuleuse. Ah non, l'autre. Aussi,
La Carina.
Ouais, la bordure.
Ouais, Carène.
La Carène.
Ça, c'était la folie. C'est-à-dire des trucs de gaz, là. Des formes luminescentes, tous ces trucs de poussière.
Les endroits de formation des trucs.
Ça, c'était vraiment impressionnant. Voilà, donc moi, ça m'a rappelé, il y a un petit moment, quand les premières images de Hubble étaient sorties. Par rapport à ce qu'on avait vu avant, il y avait un fossé. Et là, on en passe encore un. Quoi.
Oui, là, c'est ça. Quand on compare sur certaines cibles, Hubble les avait déjà prises, notamment la Carène. Il y a un bond technologique de performance.
Ouais. Et là, j'ai vu aussi que récemment, ils avaient pu aussi commencer à faire de l'analyse d'atmosphère de planètes.
Exactement.
Donc là, ça devient super pointu quand même. Ouais. C'est-à-dire que les exoplanètes dont tu parlais, Axel, tout à l'heure, ces planètes qui orbitent quand même très très loin autour d'autres étoiles que le Soleil. Et là, on en arrive à pouvoir analyser la composition à déterminer la composition de leur atmosphère en analysant la lumière qui nous arrive. Donc c'est évidemment derrière tout ça, il y a encore cette idée de recherche de vie ou de planète habitable, etc. Mais c'est des choses dont les astrophysiciens rêvent depuis quand même des décennies d'arriver à être capable de faire ça. Et là, c'est possible.
C'est un nombre de données qui arrivent.
Donc ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir suite à cette technologie là. Il va y avoir des avancées théoriques qui vont suivre, quoi, forcément. De nouvelles idées, de nouvelles théories qui vont émerger, en particulier autour de la planétologie. Je pense que ça va clairement bouger dans les 5 ans qui viennent. Quoi.
Et puis même en ciel profond, le James Webb,
il
a tendance à imager en infrarouge. Quoi. C'est ce qui le différencie de Hubble, hormis le diamètre et la focale. Mais ça donne accès à d'autres informations dans la ciel, dans la lumière, quoi.
Ouais. Oui, on va pas trop rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'il y avait on connaît des images de Hubble, de nébuleuses ou autres, d'amas d'étoiles, de galaxies, et notamment le fameux Hubble Deep Field, l'image qu'il a prise dans une toute petite zone du ciel et où il a trouvé 3000 galaxies super lointaines.
Il y en avait une aussi, là, ça faisait partie des 4-5 images.
Et voilà,
là, des galaxies, il y en a de partout dans les photos de.
Et voilà, et dans James Webb, il y a. C'est ça, il y a une photo Deep Field.
Le fond de ciel est un Deep Field.
Mais sinon, les photos des nébuleuses et autres, derrière, tu vois encore des galaxies et tout. Il fait des Deep Field avec des premiers plans jolis. Quoi. il a d'ores et déjà, sur ces images, détecté là. La galaxie la plus lointaine qu'on ait jamais vue, enfin la plus vieille et du coup la plus lointaine, mais c'est une image qui nous arrive de 4 milliards d'années, je crois, que c'est ça, 13,4 milliards d'années, sachant qu'on estime l'âge de l'univers à 13,8. Donc c'est vraiment une des toutes premières galaxies formées dans l'univers. Donc voilà, le James Webb tient toutes ses promesses. Va sûrement nous faire rêver encore et nous faire comprendre plus de choses.
En tout cas, on vous engage à aller voir ces images, parce que c'est vraiment c'est impressionnant, et c'est très beau.
Oui, c'est ça. Il y a deux façons de les voir. On peut les, juste les apprécier pour leur valeur d'image, quoi, visuelle.
Esthétique.
C'est, l'esthétique, c'est déjà quelque chose. Et ensuite, si on s'intéresse à ce qu'on y voit, c'est vraiment surprenant.
Il y a de la science à faire derrière. Ouais. Ouais, ça, c'est sûr.
Et puis aussi, une autre manière de faire des choses avec ces images, c'est comme avec Hubble, les images d'Hubble, la NASA, elle met à disposition les images...
Les brutes.
Quoi, les brutes, quoi, pour pouvoir... pour pouvoir traiter l'image comme on le souhaite, quoi. Et du coup, ouais, c'est encore une autre manière. Il y a des gens qui s'amusent à prendre ces données-là et puis faire leur propre traitement, ils mettent leurs propres couleurs, tout ça. Donc, ils ont fait la même chose avec James Webb.
Oui, bah en fait, comme c'est un télescope qui vient de l'argent public, les données sont publiques. Ouais. Alors, des fois, il peut y avoir une sorte d'embargo d'une équipe scientifique. Ils ont un délai d'un an où c'est secret, entre guillemets, le temps qu'ils fassent leur étude pour ne pas se faire doubler. Mais sinon, les données sont publiques. Et effectivement, il y a une image de Jupiter faite par James Webb en infrarouge qui est sortie, que j'avais trouvée renversante. Et j'ai appris après que c'était une astronome amateur qui a pris les données et qui a fait son traitement, qui propose sa vision, entre guillemets, de Jupiter. Et, alors que la NASA n'a pas encore traité ces données-là. Et, là, c'est chouette.
Ouais, magnifique cette image.
Ouais. C'est un Jupiter qui sort un peu, on dirait presque en négatif, de sombre, bleu et blanche. Ouais, on dirait une image en négatif. En fait, c'est parce qu'il prend en infrarouge, donc après les couleurs, on les met sur les longueurs d'onde qu'on veut. Mais c'est quand même des objets qui sont vraiment là. Ce qu'il prend. Voilà.
Ok. Alors, on va faire une petite pause musicale avant de poursuivre cette émission avec le thème de la semaine. Et aujourd'hui, Rémi, tu nous as proposé un petit morceau de Paul McCartney.
Ouais, Let Me Roll It, un vieux morceau.
C'est parti. We'll be right back. et bon retour dans l'Étoile Polaire, l'émission d'astronomie amateur sur RDIWA. Alors après ce petit morceau, on va enchaîner sur le thème de la semaine. Donc aujourd'hui, c'est géographie étendue du système solaire. Alors, on avait envie un peu de faire un petit tour de ce qu'il y a autour de nous, mais plus loin que la Lune, plus loin que les planètes. Vraiment voir tout ce qu'il y a autour du Soleil. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, on va commencer ce thème en vous parlant de nos plus belles observations de cet été. Vous verrez le lien qu'il peut y avoir. Et en particulier aussi des étoiles filantes qu'on a pu voir au cours de tout l'été. Et ce sont ces étoiles filantes qui vont être notre point d'entrée vers le système solaire externe. Alors, on commence par ces observations. Je vais commencer. Moi, je crois que ma plus belle observation de cet été, c'était justement à Marignac. D'ailleurs, c'est probablement une des plus belles observations que j'ai faites tout court. Pour ceux qui étaient là, il y avait un gros télescope qui était au fond du terrain que JB a bien voulu nous apporter. Et c'est vrai que observer dedans, ça a été magique. Quoi. Mmh. En particulier là, les dentelles du cygne et la nébuleuse du croissant, c'était incroyable. C'est une autre dimension. Quoi. C'était ces objets sont tous les deux des nébuleuses ou des restes de supernova dans le cas des dentelles du cygne, mais ça reste du gaz. Donc on est dans des formes très c'est quelque chose d'assez étendu, de gazeux et qui a des volutes en fait. Mmh. Et les dentelles du cygne en fait là elles étaient carrément en relief presque en fait. Ce qui était impressionnant, c'est que j'ai commencé par observer la petite et déjà moi j'ai cru que c'était la grosse.
Le balai de la sorcière.
C'était déjà super impressionnant, et quand ensuite on passe sur la grosse, en fait elle tient même pas dans le champ de l'oculaire quoi. Donc pour moi c'était vraiment magique.
Le télescope il était conséquent, ouais. 635 mm de diamètre, le miroir.
Ouais. C'est pas rien.
Ouais. Ouais, en Dobson, là, c'était. Il fallait quand même le petit escabeau pour monter observer.
C'est une magnifique machine, elle est vraiment.
Ouais. En plus, ouais.
Elle est superbe, quoi.
Avec un ethos 21 mm. Et un filtre O3, ouais.
La totale.
Ouais, moi aussi, c'est mon observation vraiment phare de l'été, quoi. Comme tu dis, c'est cette profondeur qu'il y a dans ce. J'avais déjà observé les dentelles par ailleurs avec nos instruments plus petits, enfin, aux 300 mm déjà. C'est sympa, mais ça n'a rien à voir avec le 600, là. C'est un autre monde encore. Et on a vraiment du détail, de la profondeur, du relief. Et c'est vraiment beau de voir qu'il y a ça dans le ciel et qu'on peut l'observer comme ça en visuel direct.
Sur un escabeau.
Sur un escabeau quand même. Et puis c'est un plaisir avec JB de partager ça. Il a 80 ans.
70. Non ouais.
70 Ouais, il vient quand même avec sa machine qui est hyper lourde, hyper galère à transporter. Et voilà. L'ensemble fait que c'est quand même un beau moment.
Un vrai passionné.
Ouais.
Généreux.
Rémi ?
Moi,
l'observation qui t'a marqué cet été ?
Cette observation, c'était une observation majeure. Et puis, j'en ai vécu aussi une autre au cosmodrome, à l'observatoire, sur la montagne de Bergiès. Avec le Dobson 400, plutôt sur de la planète, quoi, sur Jupiter et sur Saturne aussi, mais j'ai vraiment été bluffé par Jupiter. Et c'était un soir où ça turbulait pas, quoi. La planète elle tremblait pas. Du coup, c'était une image figée, donc la planète bougeait. Hein. Dans l'oculaire, forcément, on était au Dobson, mais les couleurs, la netteté, avec un petit filtre polarisant là, qui atténue la lumière, qui relevait les contrastes, c'était. Ouais, c'est une image que je vais garder de cet été.
Ouais, j'ai des bonnes images en planétaire. l'observatoire et un soir au 406, là où autant Saturne que Jupiter étaient vraiment d'une netteté que j'avais rarement vue. J'ai un bon souvenir de ton nouveau télescope dont tu viens de parler, Rémi, sur la galaxie dont je parlais dans Pégase 7331. Et à côté, la quintette de Stéphane, cinq petites galaxies très faibles, mais dont le diamètre de ce télescope permet de commencer à apprécier. Quoi.
Très proches les unes des autres. Ouais. Ouais.
Mais sinon, une de mes plus belles observations, alors, évidemment, les dentelles dans le 635 de JB, c'est toujours quelque chose. Mais
toi, tu y avais déjà goûté, Axel.
On peut dire que je commence à avoir l'habitude, même si c'est toujours un plaisir incomparable. Mais par contre, cette soirée de Marignac, je me souviendrai longtemps de l'image du lever de lune, puis un peu plus tard du lever de Pléiade aux jumelles. On ne parle pas ni de télescope ni de lunettes, enfin, en quelque sorte, c'est deux lunettes. Le binoculaire, c'est des 100 mm d'ouverture. Et du point de vue où on était, enfin, le lever de lune, puis des Pléiades qui étaient juste derrière. Il y avait en ombre chinoise, on voyait le flanc de la montagne, les arbres se dessiner sur la lune au moment précis où elle sortait. Et c'était vraiment une image de carte postale. Quoi. Ah ouais. Impressionné.
Ouais. Et moi, il y a un truc aussi à Marignac qui m'a marqué, c'est on a quand même pu voir Vénus. Vraiment, c'était la dernière observation à l'aube.
Ouais.
Elle a brillé quoi, une demi-heure.
Il y avait le débat, on n'était pas tous d'accord. Mais...
Non, elle va pas venir, machin. Et paf, elle était là et elle a clôturé la nuit. C'était vraiment magique aussi.
En ce qui concerne les étoiles filantes, il y en a une qui vous a marqué cet été, plus qu'une autre?
Il y en a une que j'ai vue à l'observatoire dans le reflet du Dobson.
Ah oui.
Et j'ai entendu tout le monde dire « Waouh !»
Ah oui.
Purée de bolide, quoi. Et moi, je l'ai vue dans le reflet du tube métallique, quoi.
Ouais, moi, elle était à ma droite. Je m'adressais aux gens qui étaient là. Et eux, par contre, l'ont vu pendant que je parlais, à peu près où je montrais. Et par contre, alors je ne l'ai pas vu, j'ai vu la fin, il restait un peu de lueur quand le temps que je tourne la tête, ce qui est déjà impressionnant en général. Toile filante, quelqu'un fait « Oh, on regarde, il n'y a plus rien ». Et là, tout le monde s'est exclamé. J'ai eu le temps de tourner la tête et de la voir, mais surtout avant ça, j'ai vu les gens d'un coup, comme s'il y avait eu un éclair, un petit flash d'un coup, les ombres projetées au sol, l'espace d'une petite seconde. Ouais.
C'est vrai que c'est super impressionnant ce qu'on va appeler les bolides. Moi j'en ai pas vu cet été, mais c'est vrai que bon, il y en a tous les ans, enfin il y en a toujours. Et un bolide, c'est donc les étoiles filantes, on voit ce que c'est là, c'est vraiment un petit trait qui parcourt une petite portion du ciel. Il y en a des plus ou moins longues, des plus ou moins grosses, mais un bolide, ça va vous faire une traînée qui est déjà beaucoup plus épaisse, presque granuleuse. Parfois un peu coloré. Moi, ça m'est arrivé d'en voir des vertes.
Oui, ça, les vertes.
Et surtout, ça va durer plus longtemps, quoi. Ça, parce qu'elle se déplace assez lentement en général.
Oui, puis la traînée peut survivre aussi quelques secondes après.
C'est pas une fraction de seconde. Ouais. C'est d'un coup, c'est une, deux, voire trois secondes. On voit quelque chose comme ça de très lumineux et de granuleux, d'épais qui traverse le ciel. Et ça, c'est vrai que c'est impressionnant.
Ouais, c'est intense. Hein.
Et sinon, moi, la plus belle que j'ai vue cet été, que j'ai vraiment vue, c'était encore pendant une animation et ça tombe pile au moment de l'animation où je demande aux gens de regarder la Grande Ourse. Et puis à ce moment-là, il y a une étoile filante qui descend tout le long de la Grande Ourse, très lumineuse et surtout un peu avant la fin qui s'est disloquée en trois petites qui ont continué un petit peu. Et voilà, comme c'était au moment où je montrais, les gens étaient fous. C'était marrant. Ouais, celle-là, je m'en souviendrai. Une étoile qui se disloque, une étoile filante.
Les hasards qui ne sont pas vraiment des hasards, au final.
Alors, on va parler un petit peu de ces fameuses étoiles filantes.
Oui,
parce que c'est aussi une question qui revient très, très, très souvent, en fait, dès qu'on fait observer le ciel. Une étoile filante, c'est un morceau de matière spatiale, donc un débris de quelque chose qui rentre dans l'atmosphère. Et qui, effectivement, au contact de cette atmosphère et donc des molécules de gaz qui la composent, va s'échauffer jusqu'à, en fait, brûler. Alors, ce qu'on observe réellement, la traînée, c'est pas le corps qui brûle qu'on voit. Ce qu'on voit réellement, c'est un phénomène un peu plus subtil de physique, où en fait le passage du corps va ioniser les molécules de gaz, c'est-à-dire leur faire perdre des électrons, et en fait elles vont récupérer leurs électrons d'une façon ou d'une autre, et en fait en faisant ça elles vont dégager de la lumière. Donc en fait ce qu'on voit, c'est plutôt la luminescence qui est émise par les molécules de l'atmosphère. C'est ça qu'on voit, c'est pas le corps lui-même en train de brûler. Ceci dit, il brûle quand même, enfin il brûle au sens où il s'échauffe énormément, et on le voit bien sur certains éclats de météorites qui peuvent arriver jusqu'au sol, en particulier les métalliques, on voit qu'elles ont été fondues, pour ceux qui ont déjà tenu des météorites dans leurs mains. Donc il y a cet échauffement, il est réel. Donc voilà, c'est ça qu'on observe, c'est ça une étoile filante, c'est un morceau de
quelque chose de au final
solide.
Oui, surtout j'allais dire de terrestre, enfin, c'est quelque chose qui se passe à 60 km d'altitude. Quoi.
C'est ça, ça se passe dans l'atmosphère.
Pas dans l'espace. Quoi.
Exactement. C'est la rencontre de ces petits corps qui dérivent dans l'espace avec l'atmosphère. C'est ça une étoile filante.
Et quand tu dis petit, une étoile filante, c'est en général, alors à part les bolides dont on parlait qui vraiment éclairent le ciel et vraiment les plus majeurs, mais la plupart des étoiles filantes qu'on voit, c'est des grains de sable, on en tient un millier dans la main, dans le creux de la main, des étoiles filantes. Mais ils chauffent suffisamment
pour ioniser l'atmosphère.
Ouais, pour éclairer.
Et aussi, la plupart des étoiles filantes ne vont pas arriver jusqu'au sol.
Oui. Enfin,
parce qu'elles vont être consumées par l'atmosphère. Il faut qu'elles soient suffisamment grosses pour réussir à perdre de la matière, mais qu'il en reste quand même au moment où elle a tout traversé et où là, elle peut impacter le sol. Après, bon, c'est des corps célestes, donc ça veut dire que l'ordre de vitesse, c'est la dizaine de kilomètres par seconde. Ça va très, très, très vite, donc ça a énormément d'énergie. Et en fait, si ça touche le sol, ça peut créer des gros, gros dégâts ou d'énormes cratères. Mais moi je trouve que par rapport à la taille des cratères, en fait la taille des bolides sont très faibles.
Oui.
Quelque chose de la taille du poing peut te faire un cratère clairement de plusieurs dizaines de mètres, quoi.
Oui, c'est ça, oui.
Donc voilà, à cause de sa vitesse. Donc après, la question qu'on peut se poser, qui vient derrière, c'est d'où viennent ces morceaux de matière qui rentrent dans l'atmosphère comme ça. Et là vous avez plusieurs réponses. Déjà, ça peut être quelque chose d'humain, ça peut arriver, un débris de satellite, un truc, voilà, quelque chose que nous on envoyait dans l'espace et qui à un moment donné retombe et se disloque dans l'atmosphère. Ça, c'est bon, mais c'est pas du tout la majorité des cas, mais ça peut arriver.
Oui, il y a une façon pour casser la poésie des étoiles filantes, c'est que ça peut être un sac de caca renvoyé par la station spatiale qui brûle dans l'atmosphère.
Un peu tout et n'importe
quoi. Et nous,
on
fait un vœu là-dessus.
Voilà. Par exemple.
Mais c'est pas la majorité, effectivement. Voilà.
Et sinon, bon, bah, ça peut être un peu n'importe quoi qui passe là dans le dans. En fait, c'est pas l'objet réellement qui passe, c'est surtout la Terre qui passe, en fait. Parce que nous, on tourne autour du Soleil, ça on le sait, sur notre orbite qu'on décrit en une année. Mais cette orbite, elle est quand même énorme. La Terre aussi, elle se déplace à des vitesses qui sont de plusieurs kilomètres par seconde dans l'espace. Donc, en fait, on balaye en permanence une zone de l'espace. On balaye notre orbite, en fait. Toutes les planètes balayent leur orbite et ramassent tout ce qui traîne dessus. Et en particulier, ce qui va générer ce qu'on appelle les pluies d'astéroïdes, donc ce qu'on appelle par exemple les perséides,
oui, voilà.
En été, qui sont les plus impressionnantes, enfin les plus nombreuses et les plus impressionnantes. C'est pour ça qu'on dit l'été, la nuit des étoiles filantes, etc. C'est parce que
comment on sait que c'est toujours à ce moment-là,
voilà. C'est toujours au même moment. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là que l'orbite est, que la Terre est dans une certaine partie de son orbite. Et il se trouve que cette partie-là de l'orbite est aussi un point commun avec l'orbite d'une comète. Donc une comète qui forcément quand elle passe, laisse dans son sillage des débris. Et nous, en fait, tous les ans, on passe dans cette zone où est passée cette comète. Et donc, on ramasse les débris et ça crée des pluies d'étoiles filantes. Alors, il y en a d'autres dans l'année. Il y a par exemple les Léonides aussi, qui sont, il me semble, plus en hiver. Et il y en a d'autres.
Oui, d'ailleurs, je crois qu'il y en a des plus conséquentes en termes de nombre d'étoiles filantes par heure. Il y en a des plus conséquentes que les Perséides. Après, les Perséides, c'est l'été, on est plus facilement dehors. C'est pour ça qu'elles sont connues. Mais il y en a une en hiver, Géminide ou Léonide, je ne sais plus, qui est plus conséquente. Ouais.
Alors, au passage, on donne des noms comme ça à ces essaims parce que si vous vous amusiez à repérer, vous prenez une carte du ciel et vous repérez les directions, vous dessinez les directions en fait, de ces étoiles filantes dans le ciel. Ensuite, vous prolongez toutes ces lignes et ben vous allez avoir toutes ces lignes vont avoir donné l'impression de provenir d'une constellation. Mmh. Donc les Perséides, on a l'impression que ça vient de Persée, les Léonides que ça vient du Lion, etc., etc. Mmh. Donc c'est pour ça qu'ils portent ces noms-là. Donc voilà un peu et ça c'est quand même l'origine majoritaire des étoiles filantes qu'on peut observer, c'est en fait des débris de comètes. Alors, question d'après, c'est quoi une comète ?
Exactement.
Une comète, c'est une grosse boule de poussière et de glace, grosso modo, qui se balade dans l'espace et qui revient périodiquement. C'est-à-dire tous les... alors là, ça dépend des comètes. La comète de Halley, la plus connue, revient tous les 76 ans, par exemple. Donc,
Il y en a qui ne reviennent pas aussi.
Il y en a qui ne reviennent pas.
Qui passent qu'une fois.
Oui, aussi.
Qui ensuite, voilà.
Mais soit sont éjectés, soit sont trop désintégrés par le soleil.
Détruites. Parce que c'est clair que ces objets-là, ces comètes, sont des objets quand même, donc, comme on l'a dit, de glace, beaucoup de glace en fait. Et donc, sont très sensibles à la chaleur émise par le soleil. Et donc, vous avez toujours, quand vous observez une comète, deux queues, en fait, derrière la comète. Une qui est créée par le mouvement de cette comète, donc qui va être derrière
avec
elle,
les débris.
Avec ses débris, et une qui va être en fait due au vent solaire, à la chaleur du soleil, et qui va être éjectée non pas dans la direction du mouvement de la comète, mais dans la direction opposée à celle du soleil. Oui. Et donc vous allez avoir ces deux queues qui vont se superposer, et qui, toutes les deux, émettent des choses qu'elles laissent sur leur orbite.
Il n'y a que ionisé, là.
Ouais, ouais. Que ionique et que de poussière.
Ouais.
Il faut la chevelure.
Ouais.
Et dans l'idée de cette périodicité, c'est quand les comètes, en fait, donc c'est des orbites elliptiques, comme les planètes, on dit que les orbites sont circulaires, mais là, en l'occurrence, c'est des ellipses, même pour les planètes, même si c'est des ellipses qui sont proches du cercle. Pour les comètes, là, par contre, on a des ellipses très, très elliptiques, c'est-à-dire que, et donc, dont le Soleil va être un des foyers. Alors bon, là, c'est un peu géométrique, mais l'idée, en gros, c'est qu'elle vient passer près du Soleil et qu'ensuite, de l'autre côté, elle vient passer auprès d'un autre point qui est très loin. Donc voilà, elles vont très loin, elles sont très loin, elles arrivent, elles sont un petit peu, elles sont réduites par le soleil, elles perdent de la matière, puis elles repartent.
Ouais, elles se refroidissent en s'éloignant.
Oui, c'est ça.
C'est ça.
Et quand elles reviennent, elles se réchauffent, ouais,
elles
perdent de la matière.
Ouais.
Donc petit à petit, elles vont être détruites de toute façon. Oui. À terme, elles peuvent pas non plus être là éternellement. Quoi. Voilà un petit peu où nous mènent ces étoiles filantes. Et donc la question suivante qu'on peut se poser, c'est d'où viennent ces comètes. Et
je reprends. Ouais. Elles viennent ces comètes de très loin, comme on disait. Et qu'est-ce qu'on entend par très loin ? C'est de plus loin que Neptune, qui est la dernière planète du système solaire, la plus lointaine. Après, on a encore Pluton dans la ceinture d'astéroïdes de Kuiper. Et un peu plus loin, eh bien, on a là une grande réserve de comètes, plutôt de noyaux cométaires, comme on dit dans le jargon, en forme non pas de disques, de cerceaux, comme les ceintures d'astéroïdes, mais là plutôt de sphères tout autour du Soleil. Et c'est qui vont marquer un petit peu la fin de l'attraction gravitationnelle du Soleil.
Ça, c'est le nuage de Oort.
Et voilà, son nom, c'est le nuage de Oort, du nom du monsieur qui l'a découvert. Et ce nuage de Oort, donc, qui est extrêmement loin, il contient plusieurs milliers de milliards de comètes. Et de temps en temps, elles s'entrechoquent. Il y en a une qui peut se retrouver déviée jusqu'au Soleil.
L'astéroïde, quoi, surtout. Ce qui différencie l'astéroïde et la comète aussi, c'est l'activité cométaire.
La composition, surtout. Les astéroïdes sont surtout rocheux, comètes un peu plus de glace.
Elles sont, parce qu'elles sont très loin du soleil, donc elles sont froides et ouais. sont gelées, quoi.
Oui, ouais, exactement. À cette distance-là, elles reçoivent très peu d'énergie du soleil. Ouais.
Petite précision, il me semble que le nuage de Oort est toujours une chose théorique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'observation réelle.
Si, si, c'est observé, c'est magnitude 20, quelque chose okay. comme ça, 26, je ne sais plus, mais il y a des observations. Si, si, c'est
des observations directes ou c'est des observations en occultation là, en
transit ça, je ne sais pas exactement, mais je crois que ça fait pas débat, en tout cas, l'existence de ces milliers de milliards de noyaux cométaires.
Donc voilà un peu le tableau, c'est-à-dire qu'on a on a le Soleil, on va dire au centre de tout ce système solaire, et ensuite viennent donc les planètes telluriques,
les quatre premières planètes
qui sont solides, qui sont rocheuses, avec aussi une atmosphère plus ou moins importante, et puis de composition très différente. On a déjà évoqué ces sujets à nombreuses reprises dans l'émission.
Et on peut juste les reciter.
Donc Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ouais. Voilà les quatre premières planètes. Vient ensuite ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes, donc qui elle est, comme son nom l'indique, une ceinture. C'est-à-dire c'est un anneau, en fait, comme un anneau de petits débris rocheux qui sont... qui orbitent autour du Soleil.
Quelques mètres, quelques kilomètres pour les plus gros, des montagnes, quoi, une petite montagne.
Et au-delà de cette limite, toujours dans le même plan, hein, où orbitent toutes les planètes du système, hein, elles n'orbitent pas n'importe comment, c'est, on en a déjà parlé, mais toujours dans ce disque, viennent les grandes planètes gazeuses, donc Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Donc là, l'échelle de distance, c'est l'unité astronomique. C'est celle qu'on utilise pour un peu se repérer dans les systèmes planétaires. Une unité astronomique, c'est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Donc c'est 150 millions de kilomètres. Dès qu'on parle de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, on arrive à une trentaine d'unités astronomiques à peu près pour Neptune. Et au-delà, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, vous me dites, il y a Pluton. Pluton, oui. Ça fait, pourquoi vous me parlez de Pluton ? Bon, ce n'est pas un secret. Hein. Pluton a été déclassé. On a considéré que ce n'était plus une planète, mais bien un objet de cette fameuse ceinture de Kuiper. Donc, toujours une sorte de ceinture d'astéroïdes, mais cette fois beaucoup plus étendue, qui irait qui commencerait, on va dire, à l'orbite de Neptune, autour de 30 unités astronomiques, jusqu'à 70 unités astronomiques. Voilà, vous avez un disque d'astéroïdes et aussi de noyaux cométaires, puisque on estime que la grosse majorité des comètes qui ont une périodicité inférieure à 200 ans viennent de là. Okay. Et donc ça veut dire qu'elles ont forcément une trajectoire qui est dans le plan dans l'écliptique, quoi, dans le plan du système solaire. Et c'est là aussi qu'on va avoir la différence avec le nuage de Oort, qui lui est beaucoup plus loin, puisque là on se situe entre 20 000 unités astronomiques et 100 000.
Oui, alors qu'avant, donc, on était à 30, on 60.
On était 30, 60, et là, d'un coup, on passe à 20 000, 100 000. Donc, c'est plus du tout la même échelle, et qui, lui, pour le coup, est sphérique. Et comme tu le disais, Axel, la fin du nuage de Oort, en fait, c'est la fin de la zone d'attraction gravitationnelle du Soleil. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, en fait, le Soleil n'a plus d'influence en termes de gravitation. Il n'a plus rien attiré à lui. Et donc, on est réellement dans le milieu interstellaire, quoi, vraiment. Voilà un peu l'échelle. Alors, avant ça, on a aussi une autre distance qui est intéressante, c'est ce qu'on va appeler l'héliosphère. On a parlé déjà là, du vent solaire, c'est-à-dire de toutes ces particules que le Soleil éjecte autour de lui, dans tout le système. Il y a un moment où ce vent solaire, il s'arrête. Il va jusqu'à 150 unités astronomiques, lui. Donc voilà un peu les échelles de distance. Jusqu'à 30 UA, on a des planètes. Entre 30 et 60, on a une ceinture de Kuiper, donc dans le disque, avec tout un tas de petits corps, mais type Pluton. Alors Pluton, quand même un des plus gros, très clairement. Alors, qui lui serait plus ou moins sorti de cette ceinture, probablement attiré par une conjonction avec Jupiter, Saturne, enfin des grosses géantes qui viennent le faire sortir un peu de. Et on pense que c'est aussi ça qui attire les comètes de. Qui sont dans Kuiper, c'est les géantes gazeuses en fait qui viennent jouer ce rôle-là, parce que quand même Jupiter a une masse qui est quand même conséquente et peut faire ça quoi.
Oui.
Donc faire venir ces objets-là vers le Soleil et les transformer en comètes qui vont laisser une queue et que nous en fait si, on va pouvoir rencontrer avec notre atmosphère pour faire des étoiles filantes. Donc voilà, ensuite 150 UA, l'héliosphère s'arrête, plus de vent solaire. Et là, un peu de vide, on ne sait pas trop ce qu'il y a entre les deux, jusqu'à arriver à ce fameux nuage de Oort. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on a dit le nuage de Oort entre 20 000 et 100 000 unités astronomiques. Là, on va passer à une autre échelle, qui est l'année-lumière, qui est, donc je rappelle, la distance parcourue par la lumière en un an dans l'espace. À savoir que l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, est à peu près 4 années-lumière. Là, à 100 000 années, à 100 000 unités astronomiques, en réalité, on est déjà un peu plus d'une année-lumière.
Ouais. Donc, si on voyageait, arrivé au nuage d'Oort, on a fait plus d'un quart du trajet.
Du trajet, en fait.
Jusqu'à Proxima. Ouais.
Donc ça vous donne aussi une échelle un peu de... OK, les étoiles sont à 4 années-lumière, mais en réalité, elle a une zone d'influence, en tout cas gravitationnelle, qui fait plus d'une année-lumière. Si l'autre en face aussi... Eh ben vous avez en fait un espace de 2 années-lumière entre les deux, où là, vous êtes vraiment dans le milieu interstellaire. Et donc, les étoiles, oui, c'est des points, mais en fait, elles ont des zones d'influence à la fois énergétiques et surtout gravitationnelles qui sont quand même super étendues quoi, autour d'elles.
Et tout un cortège, c'est vrai que souvent, on se représente, et parce que ça marche très bien comme ça, si ça nous suffit, on représente le Soleil, 8 planètes, ceinture d'astéroïdes éventuellement, et puis plus rien pendant des années-lumière, et puis une autre étoile avec pareil. Et en réalité, ben, on voit que c'est peuplé, c'est riche l'espace quand même. On parle du vide, mais localement, c'est toujours du vide. Les espaces sont très grands, les distances sont très grandes. Mais voilà, il se passe quand même beaucoup de choses autour des étoiles, entre les étoiles.
Oui, il y a une vraie géographie, et puis tout ça, ça a une petite vie, okay, dont les comètes sont un exemple. Mais on a aussi parlé des histoires de migration de planètes, de choses comme ça. En fait, tout ça, ça vit, quoi. Ça évolue, ça bouge. Oui. Ça a été créé. On a déjà fait des émissions sur la création, sur tout ça.
D'ailleurs, en parlant de vie, on pense que la majorité de l'eau sur Terre a été amenée par des comètes à une époque du système solaire où il y avait beaucoup plus d'impact. Aujourd'hui, il nous reste des étoiles filantes pour rêver, mais il y a une époque un peu plus tumultueuse dans la... processus de création du système solaire où il y avait énormément d'impact et les comètes ont pu amener avec leur glace ont pu amener l'eau sur Terre et peut-être même aussi c'est une théorie qui est pas encore c'est pas un consensus mais c'est une théorie quand même assez plébiscitée qui s'appelle la panspermie cosmique et qui est que la vie les éléments nécessaires à la vie tels qu'on la connaît ont été amenés aussi par le biais de comètes et d'impacteurs venus sur la surface de la Terre quoi.
Ouais, c'est une des théories qu'on a effectivement sur l'origine de la vie. En tout cas, d'amener les acides aminés, les bases, les bases de la chimie organique en fait.
Et l'eau.
Ouais.
Et puis tous ces impacts aussi, ils ont eu de l'influence sur l'inclinaison des planètes, oui. Les périodes de, les rotations journalières, tout ça, ça. Potentiellement le décrochement de la Lune.
C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi cette idée que
l'activité volcanique aussi influence, je crois.
La rotation inverse de Vénus aussi. Toutes les planètes tournent font sur elles-mêmes dans le même sens, sauf Vénus. Je pense que c'est peut-être un gros impact qui l'aurait retourné.
Changer de sens.
Sur Uranus qui tourne quasiment à plat.
Oui, aussi, pareil. Uranus qui roule sur son orbite.
Ouais.
Ah, donc voilà, c'est des choses qu'on présente moins souvent toutes ces choses, ces petits objets.
C'est lointain, c'est petit, oui. C'est difficile à observer.
Voilà.
Déjà, bon, en tant qu'astronome amateur, c'est clairement inaccessible,
oui.
Puisque de toute façon, ça n'émet pas de lumière.
Ah, oui,
ça n'en réfléchit pas non plus.
À part les comètes qui se rapprochent du Soleil et qui peuvent se mettre à rayonner, il y en a une en 2020, la comète NEOWISE, au mois de juillet, qu'on voyait à l'œil nu. Mais il y en a régulièrement aussi, observables pas à l'œil nu, mais au télescope. Cet été, j'en ai observé une d'ailleurs, dans le Scorpion.
Et puis suivant d'où elles viennent, Nowise, elle nous a surpris parce que elle a été découverte assez tardivement, quoi. Oui. Et parce qu'elle venait de vers le soleil, quoi. Oui. Enfin, depuis notre point de vue, on pouvait pas la voir avant, quoi. Elle venait pas la nuit du fin fond, quoi. C'est vrai que c'est toujours un hasard et ça a été beaucoup la recherche des astronomes depuis qu'il y a des astronomes, les chasseurs de comètes, quoi.
Oui, oui, mais j'ai perdu son nom, Nicolas Beaver, qui est cométologue un français, qui dit qu'aujourd'hui encore, il y a assez peu de moyens de savoir précisément si telle comète va s'éclairer assez pour qu'on la voie à l'œil nu, si elle va se disloquer à telle ou telle distance du Soleil. On commence à avoir des estimations, mais ça reste pas très précis, quoi.
On n'a pas de grosse connaissance au fond sur les structures internes, sur tout ça.
Alors, il y a les comètes périodiques, Halley, Swift-Tuttle, tout ça, ça c'est bon, mais tout le reste, c'est de la découverte au jour le jour, souvent.
Il y a quand même eu des explorations spatiales ces 20 dernières années pour aller cueillir des échantillons, observer, et notamment Rosetta.
Ah, la sonde Rosetta, ouais. Ouais, c'était plutôt un astéroïde, quoi. C'est-à-dire que c'est un objet qui n'a pas d'activité cométaire, qui n'avait pas de chevelure, mais qui fonctionne. Il y a tout un tas d'astéroïdes qui fonctionnent comme des comètes, juste qu'on ne les voit pas parce qu'ils ne dégagent pas de lumière. Ils sont bien surveillés, mais c'est la différence avec les comètes. Il y a un nom que j'aime bien quand on parle des comètes, c'est la sublimation. La transformation de la matière de l'état solide à l'état gazeux.
Sans passer par l'état liquide.
Ouais. Il y a tout un état de la matière qui est très différent. Quoi.
Dans l'espace, oui.
Et on sait aussi depuis peu, et grâce aux observations, à la déduction ensuite, qu'il peut y avoir des voyageurs, comme ça fait des astéroïdes ou comètes, entre les étoiles. Il peut y avoir des échanges de matière. On parle de comètes interstellaires, d'astéroïdes interstellaires, qui viennent d'un autre système, qui ont voyagé justement dans ce vide entre les systèmes.
Oui, qui n'est pas si grand au final, vu les échelles qu'on vient de donner. Là,
c'est oui, tout surtout à fait donner concevable. Le temps avec les échelles de temps avec lesquelles on joue. Oui,
il y a le temps de parcourir les distances.
Et d'ailleurs, pour revenir un tout petit peu sur l'actu, j'ai lu il y a quelques jours qu'on a identifié un météore, un bolide qui a fini sa course sur Terre et qui avait une trajectoire qui fait penser qu'il serait interstellaire. Sauf qu'il est tombé dans le Pacifique, et il y a des missions là, pour essayer de le trouver, mais je ne sais pas ce que ça va donner au milieu du Pacifique.
Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a tout un tas de cailloux qui viennent de l'extérieur du système solaire. Quoi.
Ouais, il y a des échanges.
Je me souviens d'un Atacama au musée des météorites. Là. Au moins, il y avait une météorite, elle était plus âgée que la Terre. Quoi.
Ah ouais,
une matière qui est plus vieille quoi, que le Soleil et tout.
Wow.
C'est vachement axé là-dessus, ouais, les recherches aussi.
Il y avait aussi cette histoire de Voyager 2 là.
Et oui, elle est à combien d'années-lumière déjà, Axel?
En années-lumière, c'est une fraction d'années-lumière.
Mais...
Elle est à 130 UA, 130 fois la distance vers le Soleil.
C'est 0,00.
Oui, en années-lumière, ce n'est pas grand-chose.
Par rapport à ce qu'on a dit, elle est en train de sortir de l'héliosphère en fait.
C'est ça.
Sortir de la fin du vent solaire, la fin de l'interaction, de l'influence électromagnétique du Soleil en fait.
Et c'est l'objet le plus lointain qu'on ait.
Ça commence à être assez loin déjà.
Oui.
Et au final, elle a mis du coup combien de temps pour parcourir cette distance?
C'est parti en 79.
80, ça fait 40 ans.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Moins de 50 ans pour parcourir cette distance, ça veut dire que peut-être si elle est toujours en vie, dans 200, dans 250 ans. Elle peut peut-être se... Non, un peu plus que ça, ouais. Mais disons, dans 1000 ans, elle va se retrouver dans Proxima du Centaure. Enfin, on n'en sait rien. Elle va pas vers cette direction-là.
Mais... Je crois que c'est quelques milliers d'années avant qu'elle croise quelque chose.
Oui, quand même.
Ouais, ouais.
Bien que ce soit l'objet le plus rapide qu'on ait, qu'on ait jamais créé, et le plus lointain maintenant, de longue.
Il y a New Horizon aussi, la sonde qu'elle a explorée, Pluton, qui est plutôt dans la ceinture de Kuiper encore, je crois. Elle avait photographié Arrokoth, là, espèce de astéroïde double, un peu bizarre, là. Double patate, quoi. Et voilà, elle est plus proche, quand même.
C'est ça qui est aussi rigolo avec les astéroïdes, c'est leur forme, parce que il y a une sorte de masse critique au-delà de laquelle les corps dans l'espace deviennent sphériques ou plus ou moins sphériques comme les planètes. Hein. Mais donc ça c'est la gravitation qui fait ça. Mais si le corps est trop petit, il a la forme qu'il a. Donc d'une grosse patatoïde, ça peut être tout et n'importe quoi. Il n'y a rien qui l'oblige à devenir sphérique. Quoi. Ouais. Donc c'est vrai que c'est toujours étonnant, je trouve. Les formes des astéroïdes sont complètement
aléatoires.
Incongrues, quoi. Ouais, ah ouais, il y a un côté.
Ça s'est entrechoqué. Ouais. Ouais. Ouais.
Il y avait celui qui. Oumuamua, là.
Oui.
L'espèce de.
Le cigare, il l'avait appelé. Ouais. Qui était justement un objet interstellaire.
Ouais, je crois qu'il soupçonnait ça. Ouais. C'est vrai qu'ils arrivent tellement soudainement, on n'a pas le temps de calculer leur trajectoire. Je crois que c'est. Et je crois qu'il y a des projets de mettre des satellites en veille pour essayer de les intercepter avant, de les observer plus tôt.
Dans cette idée que ça ne vienne pas percuter la Terre, que ça vienne
aussi,
pas.
Aussi. Ouais.
Parce que c'est clair que s'il y a un astéroïde majeur qui tombe sur la Terre, on peut très bien arriver à une extinction totale des espèces vivantes. Hein. Enfin, la façon dont ça se passe, c'est l'occultation, l'obscurcissement du ciel, en fait. À partir du moment où il y a un truc. C'est une des théories sur l'extinction des dinosaures. Ça tombe et ça fait un cratère tellement énorme, ça soulève tellement de poussière dans le ciel pendant tellement longtemps qu'en fait toute la photosynthèse s'arrête, toutes les plantes meurent et tout s'arrête en fait. Il n'y a plus de chaîne alimentaire, tout disparaît. Quoi. Donc effectivement, dans cette perspective-là, il y en a qui se disent ça pourrait être pas mal si on pouvait détecter des trucs et éventuellement leur balancer des missiles ou autres dessus pour les dévier ou les fragmenter.
Envoyer Bruce Willis.
Par exemple, ouais.
Il y a un paquet de télescopes quand même qui sont pointés vers le ciel pour ça, quoi, ouais. Pour trouver les
astéroïdes. Ouais, il y a déjà de la surveillance. Ouais.
Par astrométrie notamment, avec une cartographie qui est donnée, puis voir s'il y a un point lumineux qui se déplace d'un soir à l'autre, c'est pas normal. Et il y a pas mal de déductions qui sont faites justement par les trajectoires, quoi, savoir si c'est périodique ou pas. C'est hyper intéressant ça.
Ouais.
Bien, on conclut l'émission ici.
Oui, pour cet épisode 39, ce sera terminé. On est ravis de vous avoir retrouvés. On espère que vous avez pris plaisir à écouter cette émission. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine.